ouais. Nature est grand. Ouais. On veut être plus grand que nature.
Je veux être plus grand que nature. Ouais. Non, j'ai plus le temps de m'asseoir. Faut que je reste prudent, que je m'assure. Ouais. Que j'ai tout le temps à boire. Je veux être plus grand que nature. Ouais. Non, j'ai plus le temps de m'asseoir. Faut que je reste prudent, que je m'assure. Ouais. Que j'ai tout le temps à boire. Ouais. Je veux être plus grand que le plus grand des arbres. Survoler la forêt du haut de mes branches. Regarder mes feuilles s'envoler dans les airs. Partir en flamme comme l'argent qu'on dépense. I gotta get it, I gotta do more. Je dois devenir un homme nouveau. Je ne peux pas revenir sur ce que j'ai fait plus tôt. Mais je peux décider de ce que je vais faire plus tard. On va réussir où les autres feuilles y arrivent pas. On veut devenir plus grand que notre habitat. So, je vais faire les bonnes choses. Mon équipe est costaud, d'ici jusqu'au Costa. Quand on passe dans la rue, les filles et les gosses tournent. Pas besoin de costumes, non feuillus, c'est custom.
La nature est grande. On veut être plus grand, plus grand. La nature est grande. On veut être plus grand que nature. La nature est grande. On veut être plus grand, plus grand. La nature est grande. On veut être plus grand que nature.
Feuille, 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 feuille.
La nature est grande. On veut être plus grand, plus grand. La nature est grande. On veut être plus grand que nature.
Et 174 pieds et demi, con.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite. Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Vendredi 16 juillet 2021, ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAQ 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. De retour pour une nouvelle semaine. Et ça m'a bien fait rire. C'est encore une suivi de dossier, parce que pourquoi pas? Et c'est un suivi de dossier qui est tout aussi loufoque que l'entièreté de ce dossier-là. J'en ai parlé à quelques reprises, mais maintenant, ça se conclut finalement et c'est pour la négative pour le plaignant. C'est rare, mais ça arrive. Normand Dubé, pilote d'avion et homme qui a des troubles de la colère, doit maintenant passer 16 ans derrière les barreaux pour plusieurs méfaits qu'il a commis. La Cour d'appel du Québec a imposé mardi cette semaine une lourde peine de 16 ans d'emprisonnement à Normand Dubé, doublant presque sa peine de 9 ans de détention. Essentiellement, L'ancien pilote devra purger de façon consécutive deux peines de 9 et 7 ans qui ont été imposées dans deux procès à trancher le plus haut tribunal de la province. Donc, plutôt que de les faire en même temps, comme c'était supposé, finalement, il les fera back-à-back. Souvenez-vous de Normand Dubé. Il avait tenté de faire planter le réseau électrique d'Hydro-Québec dans les Laurentides de la Naudière, dans cette région-là, ce qui aurait fait en sorte que la moitié de la ville de Montréal aurait pu être affectée. Et Normand Dubé en voulait à Hydro-Québec pour une histoire de servitude sur son terrain. Son attaque sans précédent contre les lignes de transport à haute tension d'Hydro-Québec a touché la colonne vertébrale du réseau québécois en décembre 2014. Ce qu'avait raconté un dirigeant d'Hydro-Québec, ses méfaits ont provoqué une crise extrêmement sévère en plein hiver. Et il avait causé pour 29 millions de dollars de dommages parce qu'il avait saboté des lignes d'Hydro-Québec. Et si ça avait été plus loin, ça aurait pu couper l'électricité d'une partie de la province, littéralement. Normand Dubé avait été condamné à 7 ans de pénitencier en décembre 2018 par le juge Paul Chevalier. Une partie de la preuve présentée avait même été frappée d'une exceptionnelle ordonnance de non-publication pour des motifs de sécurité nationale, probablement de la manière qui s'y est pris. En mai 2019, dans une autre affaire distincte, d'où le bout de colérique, Normand Dubé a été condamné à 9 ans d'emprisonnement pour harcèlement et incendie criminel. Car, par pure vengeance, entre 2011 et 2013, l'ancien pilote a intimidé 3 fonctionnaires et fait incendier leur résidence par des hommes de main. Et par miracle, personne n'avait été blessé lors des attentats au cocktail Molotov. Normand Dubé s'est ainsi pris à une surintendante de l'Agence des services frontaliers du Canada pour avoir reçu une contravention, Normand Dubé, pour avoir reçu une contravention de 2 000 $, et à une fonctionnaire de Sainte-Anne-des-Plaines pour un litige lié à un rôle d'évaluation foncière. Donc encore son terrain, semble-t-il. Le credo de Normand Dubé, la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc évidemment, il y a un problème avec son terrain. Il reçoit un ticket de 2 000 $ aux douanes. Qu'est-ce qu'il va faire? Mettre le feu au garage de ces madames-là. Ben oui, c'est tout à fait logique. En fait, c'est d'engager du monde pour aller mettre le feu chez le monde. Méchant dérangé. Au lieu de lui imposer une peine consécutive à sa première condamnation dans le dossier d'Hydro-Québec, le juge Gilles Garneau avait plutôt imposé une peine dite concurrente. Donc à ce moment-là, et c'était la dernière fois qu'on en avait parlé à l'émission, c'est que ça faisait qu'il allait seulement passer 9 ans de prison, mais pendant les 7 premières années, c'était en lien avec l'autre méfait. Le criminel s'en tirait avec 2 crimes, puisque les 2 peines étaient... s'en tirait pour ces 2 crimes avec seulement 9 ans de prison pour les 2 crimes qu'il avait purgés, puisqu'il allait purger la sentence consécutivement. Voilà pour ça. Les 2 peines auraient dû être imposées de façon consécutive pour un total de 16 ans, a conclu finalement la Cour d'appel du Québec. Et dans les faits, il s'agit même d'une peine globale de 16 ans et 10 mois, puisque Dubé a récemment été condamné à 10 mois de détention pour de nombreux chefs et de non-respect des conditions. C'est vrai, parce que la dernière fois où on en avait parlé, Normand Dubé s'était poussé. Il devait passer en cour pour justement recevoir sa sentence. Il ne s'était jamais présenté. C'était en décembre dernier, sauf erreur. Et justement, vu que c'est un criminel extrêmement recherché et dangereux, parce qu'il peut scraper la moitié d'une province parce qu'il sait comment saboter les lignes d'électricité, il était recherché. Il a été recherché et il était considéré dans les criminels les plus recherchés au Canada. Ben, les plus recherchés. Les criminels les plus importants recherchés à cette époque-là. C'est à ce point-là. Puis en plus, il y a un brevet de pilote, fait qu'il est capable de se pousser relativement un peu plus facilement que bien d'autres. Et dans sa décision, le juge Garneau justifiait sommairement l'imposition d'une peine concurrente par le fait que les crimes contre les fonctionnaires avaient été commis avant ceux d'Hydro-Québec. Donc, c'était deux causes distinctes, entre guillemets, donc qui n'étaient pas en lien ensemble. Des motifs qualifiés de bref et difficilement intelligibles par le plus haut tribunal dans la province. Donc, les deux crimes n'ont en effet absolument rien à voir. Ce qui valait qu'elle soit faite. Ce qui a valu de donner raison de faire les deux peines de manière concurrente. Voilà. Les juges ont tenu à dénoncer avec vigueur ce type de comportement prémédité, planifié, exécuté, parce qu'évidemment, ben, et les lignes d'hydro et engager du monde pour aller mettre le feu chez d'autres personnes, c'est quand même prémédité. On fait pas ça sur un coup de tête en se levant un matin. C'est assez difficile à prouver. La cour d'appel avait mis fin aux appels de Normand Dubé sur ses verdicts de culpabilité en février dernier en raison de sa fuite. Voilà, la fuite qu'il avait fait. Le criminel était alors l'un des fugitifs les plus recherchés au Québec. Il s'était rendu quelques jours plus tard. Donc, cet hiver, l'hiver qui vient de passer. Le procureur de la Couronne, maître Steve Baribeau, a mené le dossier avec maître Éric Bernier en appel, s'est réjoui de ce jugement susceptible de redonner confiance à la population dans le système judiciaire. On ne peut pas causer des dommages de 30 millions de dollars à un organisme comme Hydro-Québec et mettre le feu à des résidences privées de fonctionnaires qui font leur travail parce qu'on n'est pas d'accord avec le verdict, les résultats qui s'en suivent, et penser s'attirer la clémence et la sympathie des tribunaux, parce que ce sont des trucs qui remontent à il y a 10 ans, mettons. Une telle peine protégera la population du Québec de cet individu pendant de nombreuses années, du moins pendant, pendant au moins 16 ans et 10 mois avec les 10 mois qui avaient déjà été faits. Donc, le pilote des stars, comme il s'appelait, parce que de mémoire, il était, il faisait des lignes pour justement certaines vedettes qui pouvaient se promener, pas juste dans la province, parce que là, les douanes, fait qu'il a dû aller aux États-Unis aussi, mais quand même. Donc, c'est terminé pour Normand Dubé qui purgera finalement 16 ans de prison. Ben à l'âge qui est rendu, ça va pas mal être ça, son dernier fait d'armes, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Voilà, terminé pour monsieur. La cour d'appel n'aura pas été clément en sa faveur cette fois-ci. Et en même temps, de s'être poussé avant de recevoir son verdict, ou du moins sa condamnation, ça a pas dû particulièrement bien jouer en sa faveur. Donc, voilà pour ce cas. C'est probablement la dernière fois également qu'on en parle, parce que c'est pas mal terminé, mais quand même. Donc, on débute l'émission. Cette semaine, on va aller entendre Birmanie, tiens, avec Eclipse. Sur les ondes de Chiz et de CFAQ, vous écoutez le deuxième service qui débute à l'instant.
Tremblement J'ai vécu des tas de vies avant de vous connaître. J'ai commis des erreurs. Avant, je n'avais rien. Et puis, j'ai eu un boulot, une famille. Il arrive un moment où il faut choisir entre ce que le monde veut que tu sois et ce que tu es vraiment. Je dois retourner là où tout a commencé.
Et où tu crois que j'étais pendant tout ce temps?
On a un boulot à finir.
Vous êtes les filles les plus dures au monde.
Je suis désolée. Nous avons suivi les ordres et nous avons joué notre rôle.
C'était pas réel.
C'était réel pour moi. Pour moi, tu étais comme un dieu.
À toi de jouer. Au boulot.
Attache ta ceinture.
Oui, maman.
J'ai fait mon choix. J'en ai assez de fuir.
De retour au deuxième service. Ça fit avec Birmanie. Un peu plus rock que d'habitude, mais ça fit quand même. On vient d'entendre la bande-annonce de Black Widow, dernier film de la franchise Marvel et un premier test cinématographique pour Disney. En tout cas, dans les gros canons, on en reparlera. Très jeune, Natasha Romanoff, alias Black Widow, est donnée au KGB afin qu'il fasse d'elle une super espionne. Maintenant adulte et en fuite de son propre gouvernement après avoir violé les accords de Sokovie, Natasha est amenée à confronter son passé lorsqu'un mystérieux paquet et un vilain masqué l'entraînent sur les traces de sa sœur à Budapest. Ensemble, les deux femmes tâcheront de se rendre jusqu'au quartier général des Veuves Noires pour mettre hors d'état de nuire le mégalomane derrière le projet secret russe qui leur a aussi volé leur enfance. Pour la petite anecdote, la jeune sœur de Black Widow est également, du moins dans la version québécoise, c'est Catherine Brunet qui fait sa voix, mais c'est également la jeune sœur de Black Panther. Donc, j'ai hâte de voir si les deux sœurs peuvent se rencontrer dans un éventuel Avenger. Ça ferait quand même Catherine Brunet qui jase avec Catherine Brunet. Ce serait pas la première fois, mais ça serait quand même comique. Et c'est rare. Habituellement, Disney fait attention à ce genre de petits détails, mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver malgré tout. C'était mon premier cinéma, d'ailleurs, Black Widow. J'aime le préciser, depuis que c'est maintenant permis de retourner. Box-office québécois, box-office nord-américain, numéro un partout. Comme je le disais, Black Widow est un test pour Disney, si ça vaut la peine de recommencer à mettre ses films en salle, et Paris réussit avec Black Widow, bien qu'elle ne fera probablement pas autant d'argent que ses comparses Avengers. Ça a été quand même un départ très canon. Si Fast and Furious 9 avait mis un record, je pense que c'était à 80 millions de dollars pour un retour en salle après la pandémie, ce qui est quand même très bon. Black Widow, t'es à 90 pour la première fin de semaine. Sauf erreur, là, j'y vais de mémoire, mais tu sais, ils ont dépassé Fast and Furious d'un 10 millions de plus facilement pour la première fin de semaine qui était la semaine dernière. La date de sortie du film, c'était le 9 juillet. Fait que ça va bien. Si on peut se rassurer sur le fait qu'il ne faudra pas payer 35$ sur Disney Plus pour voir ces films-là qui sortent en même temps au cinéma que sur la plateforme sur demande de Disney. Parce que pour l'instant, 35$ pour avoir un film 3 mois d'avance, c'est pas justifié. Surtout quand maintenant les cinémas sont rouverts, donc on peut y aller. Et pour une seule personne, c'est 10, 11, dépendamment de l'âge, ça peut être du 7, 8 et de la journée aussi. Mais quand même, ça vaut la peine d'aller voir les films en salle pour que justement les distributeurs ne soient pas trop craintifs à envoyer des films en salle et qu'il y ait encore de l'offre. Mais dans le cas de Black Widow, c'est parlant. Les gens sont allés. C'est encourageant pour que d'autres films de, ben, dans ce cas-ci, c'est l'univers Disney au grand complet, se retrouvent en salle. C'était pas avec Cruella qui allait réussir ça. C'était vraiment Black Widow, premier Marvel au cinéma depuis 2 ans. Et parce que ça fait 2 ans aussi qu'il n'y a pas eu de film au cinéma, que Black Widow, sauf erreur, devait sortir à l'été 2019, donc quelques temps après la fin des Avengers, ben du moins le 4e Endgame, ça paraît que ça aurait dû sortir il y a 2 ans, ce film-là. C'est sûr qu'on attendait qu'il y ait finalement du monde qui puisse se rendre dans les salles, mais pas que le buzz est passé, mais le film aurait dû sortir avant. Avant Avengers ou pendant Avengers, le dernier chapitre, ça aurait pu être plus justifié, comme par exemple Black Panther et le dernier Avengers, première partie, était consécutif au cinéma. Puis il y a eu Ant-Man entre ça. Black Widow aurait dû être au cinéma en même temps que Endgame, le dernier. Parce que, oui, ça fait un an et quelques que le buzz est un peu passé. On va dire ça comme ça. Et comme le film de Black Widow se situe entre deux autres films, donc avant les événements d'Infinity War et après la guerre civile de Captain America. Fait que tu sais, on revient en 2016, littéralement, dans la chronologie des films Marvel, on revient dans l'année 2016. Donc, ben en fait, le film débute en 95, donc juste un petit peu avant Captain Marvel, mais sinon, l'action principale est en 2016, toujours dans l'univers de Marvel. Il est un peu tard. Il est un peu tard pour sortir un film qui revient dans ces époques-là, surtout. En même temps, c'est pas de la faute tant que ça au film en tant que tel, c'est que l'ancien président de Marvel avait déjà écrit dans un courriel rendu public que les films de femmes sont poches. Fait quand le Big Boss dit que les films de femmes n'attirent pas, c'est normal que Black Widow se ramasse à être la dernière à avoir son film dans la franchise Marvel. Du moins dans les personnages importants, c'est la dernière. Quoique, Hawkeye va avoir une série et non pas un film. Fait que je te dirais que c'est celui qui est peut-être le plus perdant des six originaux, mais quand même. Ben, et encore là, perdant, pas nécessairement, parce que prendre l'exemple de WandaVision, qui a été une découverte, qui a été vraiment un qui a jeté tout le monde à terre, que tout le monde a trippé comme ça se pouvait pas, c'est un bien pour un mal, on va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que la série Hawkeye a été introduite grâce à Black Widow, parce que veut pas, c'était son ami, hein? C'était l'ami de Black Widow. Fait qu'il y a quand même une résonance, bien qu'on ne fasse que l'entendre. Et ça qui est drôle, Jeremy Renner, on entend sa voix, mais on ne le voit pas. C'est peut-être la seule twist, mais je dirais que le film Black Widow est probablement, comme dans les dans la chute de Black Widow, c'est comme si c'était le film de sa vie. On pourrait le superposer comme ça. On pourrait dire que c'est ça. Le film de la vie de Black Widow. Divulgacheur parce que c'est pas mal son dernier. Fait que voilà, ou au moins qu'elle va réapparaître de temps en temps de manière épisodique avec un flashback ou en fantôme. Sait-on jamais? C'est pas complètement impossible. De toute façon, on avance tranquillement pas vite dans la phase 4, phase 5. La nouvelle phase, du moins. Donc, voilà. C'est pas un mauvais film. C'est pas un film extraordinaire à se garrocher des murs non plus. T'sais, c'est un satisfaisant 7.5. On fait des clins d'œil, oui, à la série où on était rendu. Est-ce que ça comble un trou si important que ça dans la chronologie entre guerre civile et Infinity War? Pas nécessairement. Disons que c'est intéressant, mais il y aurait eu le film, l'aurait pas eu, ça aurait fait à peu près pareil. L'indice temporel également qu'on a dans le cas d'Infinity War, c'est les coupes de cheveux de Scarlett Johansson, de Natasha Romanoff, puisqu'elle passe de rousse à blonde pour Infinity War, justement. Donc, on comprend que ces événements-là se passent juste un petit peu avant la guerre de l'infini. Mais en même temps, on situe quand même, parce qu'elle parle dans le film, les Avengers qui sont en train de se disloquer à cause de ce COVID. Pis nanana. Fait que tu sais, faut avoir quand même en tête guerre civile parce que ça se passe quelques minutes après. Surtout qu'on parle du Wakanda un petit peu dans les premières apparitions aussi de Chadwick Boseman. Fait que tu sais, avoir en tête pour aller voir Black Widow au moins guerre civile parce qu'on arrive tout de suite après dans le cas des événements. Est-ce qu'il y a un gros clin d'œil à d'autres? Pas vraiment, parce que c'est vraiment entre les deux. C'est vraiment un film entre les deux. Fait que pour ceux qui vont maintenant vouloir réécouter les films dans l'ordre chronologique temporel des années qui passent dans la série, il vient se placer entre les deux films. C'est un bon film d'action, ça oui. Il y avait peut-être un petit peu de tout est aux bons endroits. Tu sais, j'aurais besoin d'un parachute. justement, j'avais besoin d'un parachute. Ramasse le parachute. Il me semble que j'aurais besoin d'un bâton. Ah, ben, t'as un bâton qui va me servir. Voici un bâton. Ah, j'aurais besoin d'une autre. Ben, coudon, un auto pour m'enfuir. Tant mieux, elle est là, cette auto-là, pour m'enfuir. Fait que, tu sais, tous les éléments du film étaient un peu trop bien placés et un peu trop à la portée des personnages. C'est peut-être la seule affaire qui devient un petit peu risible, entre guillemets, surtout dans la scène finale, justement, le parachute qui est donc bien à la bonne place pour « je vais devoir sauter en chute libre ». Oh, un parachute, je vais le ramasser, ça donne bien, je n'avais besoin. Fait que tu sais, il y a quelques éléments comme ça qui sont un petit peu invraisemblables dans les faits. Tu sais, elle cherche pas pendant une minute et quart, il est à ses pieds, littéralement, le parachute. Fait que tu sais, puis c'est dans la bande-annonce, je divulgage pas rien, on la voit mettre le parachute dans la bande-annonce. Fait que j'ai pas donné un gros spoil, mais voilà, donc c'est sûr que c'est le fun de revoir Scarlett Johansson, c'est une bonne actrice. Fait que, tu sais, c'est pas à cause d'elle que ça n'aurait pas marché il y a quelques années s'il y avait eu un film sur la vie de son personnage. Puis, il y a beaucoup de clins d'œil aussi à la franchise très, très, très élargie. Il y a beaucoup de personnages qu'on mentionne, mais qu'on n'avait pas nécessairement vu jusque-là dans la franchise. Donc, ça peut peut-être laisser place à d'autres personnages, ou du moins qui peuvent revenir par dans les prochaines aventures, on va dire ça comme ça. Et de toute façon, on introduit des personnages qui sont définitivement là pour rester, et comme je le disais, la scène d'après-générique ouvre la porte toute grande à la série Hawkeye. Veux pas, parce que il y a un personnage qui devait normalement faire sa première apparition dans Black Widow, mais que finalement sa première apparition est plutôt dans Soldat de l'hiver et Faucon et Soldat de l'hiver, parce qu'elle apparaît dans cette série-là aussi, qui devait être sa deuxième apparence dans l'univers Marvel, mais comme le film a été retardé, ça devient comme son deuxième tour, même si c'était censé être le premier. Bref, On a quand même droit à un clin d'œil aux séries télé, du moins les séries qui font vraiment partie du MCU, parce que, mettons, les Agents of S.H.I.E.L.D., ça a rapidement pris le bord et ça n'avait plus vraiment de lien avec les films, mais quand même. Les événements peuvent être intéressants, mais c'est sûr que c'est pas tout à fait... En tout cas, il y a bien des bouts qui sont pas nécessairement rattachés à l'univers des films. T'sais, ils sont pas dans la guerre de l'infini ni dans Endgame, les agents du S.H.I.E.L.D. Je dis ça, je dis rien. On s'arrête quelques instants. Au retour, on va continuer à parler cinéma, télé, série avec Loki, qui vient tout juste de se terminer sur Disney+. Les 6 épisodes sont maintenant disponibles. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
accueille tous les naufragés et que sur son passage elle a tout cassé.
Sur des brasiers ardents, son prisme à facettes dans lequel elle tourne, elle s'étourdit.
Se voit en kaléidoscope comme si elle avait plein d'amis.
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 Le cœur monarque.
Yeah.
je m'abandonnerai à toi.
De retour au deuxième service, Melody Spear, qu'on vient d'entendre en doublé musical sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Pas tout de suite pour la vidéo. Comme je le disais juste avant la pause, on va parler de la série Loki qui est sur les ondes de Disney+. Je pensais avoir une bande-annonce, mais finalement, peut-être pas. Il semble pas y en avoir, donc c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Loki, frère de Thor, qui réussit à s'évader des événements de 2012 dans le MCU, se retrouvera confronté aux employés du temps, aux gardiens du temps, du moins aux employés du TVA. Ce qui donne droit à beaucoup de drôles pour le pendant québécois, parce que TVA a quand même une signification autre que des taxes de vente ailleurs dans le monde. Mais pour nous autres, c'est quand même une chaîne de télévision, donc ça fait quand même sourire. Alors que Loki n'est plus dans les plus récents. L'histoire prend place en 2012 dans la réalité alternative causée par les Avengers lorsqu'ils récupèrent les pierres de l'infini. On peut voir dans le film que Loki s'empare du Tesseract, réussira à s'évader dans un désert. Là, j'en divulgage un petit peu, mais il faut faire avec. C'est comment la série se passe. Puis si vous avez toujours pas vu le film, c'est parce que ça fait 2 ans, là, à un moment donné. Le dieu de la malice veut se servir des pouvoirs du Tesseract pour changer le cours de l'histoire. Après son évasion, il est plutôt amené auprès du tribunal des variations anachroniques, ou le TVA, Tribunal des variations anachroniques, ou Time Variance Authority, en version originale, donc on respecte les lettres. Un organisme qui agit pour arrêter toute personne qui tentait d'altérer le passé ou le futur et qui protège le flux temporel. L'agent du TVA, Mobius, lui demande, pour le meilleur et pour le pire, sa collaboration afin de ne retrouver un variant qui a été créé, qui a créé le chaos à différentes époques du temps dans une lutte sans merci contre le TVA. Et là, je dis un variant parce que je veux pas divulgâcher comment le synopsis est écrit. Parce que c'est quand même un bon punch. Puis je veux pas le divulgâcher, celui-là qui est le variant. Donc, la série Loki, qui met en vedette notamment Tom Hiddleston, qui interprète le rôle depuis Thor 1, et nouveau venu Owen Wilson, dans le rôle de Mobius, un peu méconnaissable. Ça y donne quelque chose, le cheveu gris et court. Si ça n'avait pas été du fait que c'était doublé en version québécoise, donc que c'était les voix cinématographiques des personnages et que Antoine Durand reprend la voix d'Owen Wilson, je l'aurais pas replacé tout de suite. Tellement il est un peu méconnaissable. Mais après ça, quand tu le regardes vraiment de face, tu fais comme « Ah ben oui, c'est Owen Wilson. » Mais il est quand même méconnaissable par son cheveu court. Ça, c'était ce qui m'avait fait le plus sourire. Comme je le disais, faut qu'on ait quand même vu un peu tout de l'univers de Loki, c'est-à-dire les trois Thor, les films Avengers, surtout le 1, le 3, le 4. Loki n'était pas dans le 2, me semble. Non, il n'était pas dans le 2. Fait que tu sais, tout ce qui a touché de près ou de loin à Loki, parce que si vous avez manqué certains éléments, si c'est pas le premier épisode, c'est dans le deuxième qu'on voit la vie de Loki au grand complet, où on regarde avec Loki les films de la franchise Marvel. Et ce qui est étrange, comme c'est le Loki techniquement de 2012 qu'on a dans la série, il n'est pas au courant de Thor 2, de Thor 3, des Avengers 3 et des Avengers 4. Et ça, c'est important de penser qu'il y a quand même toute la chronologie, le temps. Oui, c'est variable, mais dans le cas de la série, c'est important de se rappeler que techniquement, en âge terrestre, on est en 2012 dans les événements. Donc techniquement, lui-même ne connaît pas son destin D'où le fait qu'on va regarder avec lui les films de la franchise et qu'il va se rendre compte un peu c'est quoi sa fatalité. Et c'est un peu ce qui est spécial parce qu'on a annoncé une deuxième saison à Loki, qui est la première des séries jusqu'à date à avoir une deuxième saison. Et c'est un peu c'est l'épisode 1, le résumé de sa vie. Et ce qui est un peu bon également pour le dans le cas de Loki, c'est que justement le temps est tellement variable et on peut lui faire à peu près ce qu'on veut. Techniquement, Loki revient quand il veut en 2012 et reprendre sa vie normale, entre guillemets, reprendre le cycle temporel où il est supposé être. Donc oui, il doit aller dans le TVA. Mais techniquement, on peut y faire une saison 3, 4, 5, 6, peu importe. Parce que lorsque ce qu'il aura terminé à faire avec le TVA sera terminé, il peut aller se remettre dans sa boucle temporelle comme s'il n'avait jamais quitté Endgame. Même si techniquement, il disparaît dans Endgame, mais il peut revenir au moment où il veut, parce que de toute façon, à la fin du premier Avengers, il repart avec Thor vers Asgard. Fait que tu sais, ils ont cette chance-là, on va dire, de jouer avec le temps, de jouer sur les différentes versions du temps, parce qu'évidemment, on va pas seulement aller sur la Terre, sur notre Terre à nous, mais on va aller sur des Terres alternatives comme l'univers de Marvel et l'univers de DC sont capables de le faire quand même assez bien. Dans le cas de Marvel, on se le permet, on ne s'empêchera pas d'aller faire des variations dans le temps de cette manière-là. Et, encore une fois, heureusement que la série est disponible en français de France et en français canadien. Parce que les extraits de films, ne serait-ce que les extraits de films pour l'épisode 1, ce sont les voix qu'on a entendues dans les versions précédentes, dans les années précédentes de l'univers Marvel, puisque justement, on a recours aux images de Avengers 1, Avengers 3, Avengers 4 et Thor 2, Thor 3. Fait que, pour ça, c'est cool. Il y a des belles apparences, j'ai essayé de traduire guest appearance, mais ça n'a pas vraiment marché. Des invités surprises dans la série. Il y a quelques personnages de l'univers de Thor qui reviennent également pour la série Loki. Veux pas, il est quand même le frère adoptif de Loki, de Thor. Fait qu'il y a, ils ont des amis en commun. On va dire ça comme ça. Et non, c'est une autre belle série qui a quand même marqué. Il y a des bons punch aussi dans celle-là. Et puis, ben, Tom Hiddleston n'a pas complètement terminé son périple avec le MCU, puisque ça va se poursuivre dans la saison 2 qui a été confirmée. Donc, une première saison qui est quand même bien, qui a quand même bien été reçue. Malheureusement, pas assez à temps pour être en nomination pour les Emmy Awards aux États-Unis, du moins cette saison-ci, mais de toute façon, que les trophées aillent à WandaVision cette fois-ci et qu'ils aillent à Loki la prochaine fois, c'est pas plus grave, ça n'en fait un peu plus pour la famille de Marvel à ce moment-là, donc à suivre dans ce cas-ci, une saison 2 éventuellement en production probablement, donc à suivre également de ce côté-là. On va s'arrêter à nouveau quelques instants. On va aller faire une petite pause musicale. Je cherche quelque chose à nous mettre sous la dent. On va entendre Rosie Valentin avec Olympe. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de ses facs.
T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager quand tu nous vois oublier tout ce que l'on a de gagné? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer quand tu nous vois oublier ton nom sur l'échafaud? Quand tu nous vois oublier ton nom?
Retour au deuxième service, Rosie Vallant, qu'on vient d'entendre en musique. Quelques petites nouvelles brèves avant de compléter l'émission de cette semaine. Les fleets de Twitter sont déjà disparus. aussi éphémère que c'était les fleets, maintenant c'est terminé pour sur Twitter. Donc après Instagram, après Facebook, après Snapchat, Twitter avait commencé les tweets de 24 heures. Donc les tweets, les photos de 24 heures sont à la mode sur Snapchat, sur Instagram. Facebook emboîtait le pas. Twitter s'est essayé. Ça n'a pas marché. La société a testé en mars 2020 au Brésil les fleets qui ont été instaurés il n'y a pas si longtemps que ça pour l'utilisation de tout le monde. Dès la fin de l'été, la section en haut de l'application Twitter occupée par les gazouillis éphémères sera remplacée. Sera éventuellement remplacé. Le réseau social compte conserver des options d'édition offertes par les fleets comme le formatage du texte et les GIFs animés. Mais finalement, ben, les gens s'en servaient jamais, première chose. Les gens n'aimaient pas ça tant que ça. Donc Twitter a simplement écrit cette semaine « Bon, ben on enlève les fleets le 3 août. On va travailler sur d'autres choses à la place. » On est désolé ou il n'y a pas de quoi. C'est comme vous préférez. Évidemment, tout le monde riait un peu de cette fonction-là qui disait « Mais c'est quoi la pertinence de faire ça sur Twitter? » De juste avoir des photos éphémères comme sur Instagram, comme sur Facebook, vu que justement, c'est déjà le cas sur toutes les autres plateformes. Finalement, ça sera terminé du côté de Twitter, cette fonction que peu de gens utilisaient, qui s'en sont rendus compte probablement que ben, c'est officiellement terminé. Et sinon, histoire complètement vagabolesque, qui se passe également du côté... ce qui se passe plutôt cette fois-ci du côté québécois même, puisque un Gatinois du nom de Sébastien Vachon Desjardins, ça peut pas être moins québécois que ça, soupçonné par le FBI... de faire partie d'un réseau international de cybercriminels sera extradé vers les États-Unis. Lors d'une audience à Gatineau hier jeudi matin, la juge de la Cour supérieure, Catherine Mandeville, a approuvé la demande d'extradition des États-Unis après avoir obtenu le consentement de l'accusé. Rien de moins. Avant de signer les documents judiciaires pour la suite du processus, la juge Mandeville a demandé à l'accusé s'il comprenait les répercussions de son approbation, donc d'aller se faire accuser et probablement emprisonner aux États-Unis. Le consentement, ce n'est pas vu comme une admission des faits allégués. Si vous signez le consentement, vous renoncez à certains droits à l'extradition. L'accusé qui portait un masque chirurgical et un chandail de golf à manches courtes a répondu par l'affirmative. M. Vachon Desjardins renonce donc à certains droits, dont l'impossibilité de faire une demande de libération. Il ne pourra pas non plus demander de révision judiciaire. Et l'accusé a par ailleurs renoncé au délai de 30 jours. Auquel il aurait eu droit avant qu'on puisse l'extrader. Donc, il sera éminemment extradé du côté américain. Excusez. Selon des informations obtenues sur un serveur informatique en Pologne, Sébastien Vachon Desjardins serait l'un des pirates informatiques les plus efficaces, voire celui qui a le plus de succès actuellement dans le monde. Il serait affilié au réseau Netwalker, qui est une gang de cybercriminels assez récent. Donc, il était le meilleur de cette gang-là. L'Université du Michigan, le Collège des infirmières de l'Ontario et l'École de médecine de l'Université de Californie à San Francisco feraient partie de ces victimes, selon les informations publiées par la CBC. D'après un document produit par la Gendarmerie royale du Canada, des centaines de milliers de dollars ont été saisis au domicile de Vachon Desjardins et dans le coffret de sûreté de 3 établissements bancaires où il aurait réussi à amasser pour 520 bitcoins, ce qui est quand même assez impressionnant, et qu'au taux de change, au moment où l'émission est enregistrée, vaudrait 21 030 577 et 8 cents canadiens. Donc, il avait pour 21 millions en Bitcoin, ce qui est quand même énorme. Bon, oui, le Bitcoin n'est pas très bon en ce moment, mais lorsqu'il a pogné son record historique, il en valait quand même beaucoup plus. T'sais, là, si un Bitcoin en vaut 40, il y a à peine un mois, il en valait 47. Fait qu'il y avait presque... Il y avait-tu quoi, 25 millions? Ça va quand même vite, le Bitcoin, mais quand même. Il y avait quand même une assez bonne somme. Surtout les Bitcoins complets, c'est quand même assez impressionnant. Au-delà de l'enquête du FBI sur le piratage qu'il aurait effectué contre les cibles américaines en Floride, en Californie, ainsi qu'en France, il fait l'objet d'une enquête de la GRC. Les autorités cherchaient à découvrir s'il avait fait des victimes canadiennes. S'il est reconnu coupable de toutes les accusations qui pèsent contre lui, il est possible d'une peine d'emprisonnement, vu que ce sera le système américain qui le juge, pouvant aller de 135 à 100... Ah, OK, c'est des mois. Je pensais que c'était 135 années. Je trouvais ça intense, mais en même temps, c'est les États-Unis, fait que c'est pas complètement fou, mais 135 mois... en année, on parle plutôt de 11 années et quart. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est quand même beaucoup. Pouvant aller de 135 à 168 mois. Fait que ça fait quand même un peu beaucoup de temps. Et bon, selon les informations obtenues, il serait l'un des pirates informatiques les plus efficaces. Nanana. J'essaie de regarder un autre article, mais finalement, c'est pas mal la même chose. Le gâtissement des antécédents criminels. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 42 mois en juin 2015 pour trafic de stupéfiants. Donc, plutôt que de vendre la drogue, il s'est tourné vers la cybercriminalité, mais ça ne lui aura pas été payant non plus, puisqu'il se retrouve maintenant probablement devant la justice, qu'il se retrouvera devant la justice américaine prochainement. Et c'est là-dessus que se termine l'émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. À la semaine prochaine. Salut.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?